Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1888, Crépuscule des idoles est l'un des derniers livres achevés de Friedrich Nietzsche et l'un de ses exposés les plus concentrés. Cet essai philosophique, composé d'aphorismes, de courts chapitres polémiques et de jugements culturels, ne propose pas un système ordonné au sens classique. Il met plutôt à l'épreuve les valeurs que la tradition occidentale tient pour évidentes. La morale chrétienne, le culte de la raison. La croyance en un monde vrai derrière le monde sensible, le libre arbitre et certains idéaux ascétiques y sont examinés comme des symptômes d'une certaine forme de décadence. Le marteau du sous-titre désigne autant un instrument critique qu'un outil de diagnostic, comparable à un diapason qui révèle si une idole sonne creux. Nietzsche vise moins une destruction gratuite qu'une réévaluation des valeurs capables de réhabiliter le corps, les instincts, le devenir et l'affirmation de la vie. Le livre condense ainsi la méthode, le style et les conflits majeurs de sa philosophie tardive. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le marteau comme méthode de diagnostic des valeurs, le marteau ne doit pas être compris seulement comme une image de violence intellectuelle. Nietzsche l'associe aussi à une auscultation. Une valeur sociale ou philosophique est frappée afin d'en éprouver la consistance, comme on vérifierait la sonorité d'un objet supposé plein. Cette méthode déplace la question habituelle de la philosophie. Au lieu de demander si une idée est abstraitement vraie, Nietzsche demande quelle force, quel besoin et quelle forme de vie l'ont produite. Une croyance peut sembler noble, universelle ou rationnelle, tout en exprimant selon lui la peur du changement, le ressentiment envers les puissances vitales ou le besoin de rendre l'existence prévisible. La critique porte donc sur les conditions d'émergence et les effets d'une valeur. Cette démarche explique le ton de déclaration de guerre du livre, mais elle en limite aussi les simplifications possibles. Nietzsche ne recommande pas de rejeter toute règle ou toute pensée rationnelle au profit de l'impulsion immédiate. Il invite à distinguer ce qui intensifie la capacité de créer et d'assumer le réel de ce qui la diminue. Le lecteur est ainsi conduit à examiner ses propres évidences morales sans les traiter comme des vérités intouchables. Deuxièmement, la critique du monde vrai et la réhabilitation du devenir sensible dans le chapitre consacré à la manière dont le monde vrai est finalement devenu une fable. Nietzsche retrace schématiquement l'histoire d'une opposition décisive pour la métaphysique occidentale. D'un côté se trouverait un monde stable, intelligible et supérieur, accessible à la raison ou promis après la vie terrestre. De l'autre serait relégué le monde sensible, changeant et corporel, considéré comme imparfait ou trompeur. Nietzsche attaque cette hiérarchie parce qu'elle dévalorise l'existence concrète au nom d'un arrière-monde. Son argument n'est pas simplement que les apparences seraient plus vraies que les idées. Il montre plutôt que la notion même de monde vrai perd sa fonction lorsqu'elle sert à condamner le devenir, les sensations et la pluralité des perspectives. Une vérité qui exigerait de nier les conditions réelles de la vie devient, à ses yeux, une fiction consolatrice. Cette critique vise Platon, le christianisme et certaines formes de pensée scientifique ou morale lorsqu'elles prétendent imposer une vision unique, fixe et désincarnée du réel. La conséquence est une redéfinition de la connaissance. Connaître ne signifie plus s'évader du monde vécu, mais interpréter des phénomènes changeants depuis une perspective située. Le texte force donc à interroger les idéaux de pureté, d'objectivité absolue et de permanence lorsqu'ils sont employés pour discréditer le corps et l'expérience. Troisièmement, Socrate, la dialectique et le symptôme de décadence, Nietzsche fait de Socrate une figure emblématique de ce qu'il nomme la décadence. Son propos ne consiste pas en une étude historique neutre du philosophe athénien. Socrate représente surtout dans son diagnostic. Nietzsche relie cette valorisation de la raison à une méfiance envers les instincts. Lorsque l'existence doit constamment être défendue devant le tribunal du raisonnement, elle est déjà considérée comme suspecte. La dialectique devient alors une arme de ceux qui ne possèdent plus une force affirmative immédiate et qui cherchent à imposer leurs normes par l'argumentation. Cette lecture est volontairement provocatrice et ne rend pas compte de toute la tradition socratique. Son intérêt réside ailleurs. Elle oblige à voir que la rationalité n'est jamais une faculté sans histoire ni effet. Elle peut servir à clarifier, mais aussi à réprimer, à uniformiser ou à convertir des préférences culturelles en obligations universelles. Nietzsche ne demande pas l'abandon de toute réflexion. Il conteste le privilège moral accordé à une raison qui se présenterait comme l'ennemi naturel des passions. Le lecteur est invité à penser l'intelligence comme une capacité enracinée dans le corps et dans une organisation de force, non comme une autorité séparée de la vie. Quatrièmement, morale chrétienne, culpabilité et guerre contre les passions, le crépuscule des idoles attaque une morale qui transforme certains traits de l'existence, notamment le désir, la sensualité, la douleur et le conflit, en faute à éliminer. Nietzsche voit dans la morale chrétienne une entreprise de dépréciation des instincts. Elle promet d'améliorer l'être humain, mais elle risque selon lui de produire la culpabilité, l'hostilité envers soi et le ressentiment contre ceux qui manifestent force ou indépendance. Sa cible est particulièrement nette lorsqu'il critique les idéaux ascétiques et les tentatives d'extirper les passions. Vouloir supprimer une passion ne manifeste pas nécessairement une vertu supérieure. Cela peut révéler l'incapacité de l'intégrer, de la transformer ou de lui donner une forme créatrice. La santé n'équivaut donc pas à l'innocence morale ni à l'obéissance à des règles universelles. Elle désigne une puissance d'organisation capable d'ordonner des forces diverses sans les mutiler. Cette position ne justifie pas une apologie simple de tous les désirs ni un refus de toute responsabilité. Nietzsche s'oppose surtout aux systèmes qui font de la négation de soi la condition de la valeur humaine. En contestant l'idée de libre arbitre conçue comme fondement du blâme et du châtiment, il vise les mécanismes qui rendent les individus moralement coupables afin de les gouverner. Son analyse demeure féconde pour examiner les liens entre jugement moral, pouvoir et discipline des corps. En dernier lieu, aphorisme, polémique et écriture comme exercice de pensée, la forme du livre est inséparable de son projet. Nietzsche alterne maximes brèves, analyse historique, portrait d'auteur et attaque contre des habitudes intellectuelles de son époque. Cette discontinuité n'est pas un défaut accidentel de construction. Elle refuse le confort d'un système philosophique qui prétendrait tout déduire à partir de quelques principes immuables. Chaque aphorisme agit comme une épreuve locale imposée au lecteur. Sa densité, son ironie et son excès obligent à ralentir, à reconstruire les présupposés et parfois à résister à la formule. Le style polémique a également une fonction critique. En attaquant des figures telles que Socrate, Kant, Rousseau ou certains écrivains et moralistes, Nietzsche cherche à désacraliser des autorités culturelles plutôt qu'à fournir des évaluations équilibrées de leurs œuvres. Il faut donc lire ses jugements comme des interventions philosophiques, non comme des verdicts définitifs. Cette exigence explique la double réputation du texte. Il est relativement accessible par la brièveté de ses sections et la vigueur de sa prose, mais difficile par la concentration de ses allusions et la radicalité de ses renversements. Comparé à un traité continu, il demande une lecture active, faite de retours, de confrontations et de distinctions. Son style ne transmet pas seulement des thèses, il exerce le lecteur à ne pas confondre une formule reçue avec une pensée réellement examinée. En conclusion, Crépuscule des idoles convient particulièrement au lecteur qui souhaite entrer dans la philosophie de Nietzsche par un texte bref, central et stylistiquement puissant. Il peut aussi intéresser les étudiants en philosophie, en littérature ou en histoire des idées, à condition de le lire sans chercher un résumé scolaire de doctrine fixe. Son principal bénéfice intellectuel est d'apprendre à déplacer l'examen des idées au lieu de demander seulement si une valeur est respectable ou traditionnelle. Le livre demande ce qu'elle fait aux êtres humains, quelle forme de vie elle favorise et quelle force elle étouffe. Cette opération critique reste utile pour analyser les discours moraux, religieux, politiques ou culturels contemporains. Le livre ne fournit pas un programme pratique immédiatement applicable et ses attaques, souvent excessives, doivent être contextualisées. Sa critique de Socrate, du christianisme ou de la rationalité est délibérément sélective et ne dispense pas d'étudier les auteurs visés dans leurs propres textes. C'est précisément ce qui le distingue de nombreux essais philosophiques plus démonstratifs. Il ne cherche ni le consensus ni la neutralité, mais provoque une réévaluation active.